Alors, bonjour, bon matin, bonsoir et bienvenue à cette émission Yoga Web Radio. Tout à fait particulier. Il s'agit de François Raoul. François Raoul? Ah bien, écoutez, j'ai le privilège de vous le présenter. Pour les personnes qui ne connaissent pas, eh bien, comme on dit parfois au Québec, attachez votre tuque. Oui, François Raoul n'a pas la langue dans sa poche. Un élève de BKS Iyengar. Alors déjà, tout de suite, vous pouvez avoir le portrait. Nous allons parler des vraies choses. Et parce que nous avons déjà débuté cette émission, je vais, en attendant qu'il soit en onde, en fait, je sais qu'il nous entend en ce moment, je vais vous le présenter. Parce qu'il est très, très, très peu avare de commentaires à son sujet. Quand il enseigne, on ne sait pas, des fois, il peut parler de lui ou il peut parler de quelqu'un d'autre. C'est pas ça qui est important. Pour lui, ce qui est important, c'est la conscience. J'ai déjà pris un atelier, peut-être même deux, je me souviens pas. Il y a tellement de yoga, sauf que quand on en a pris un avec François, on veut retourner. Parce qu'il le dit, il se cache pas, il dit, le prochain atelier, lorsque je serai dans votre ville, dans le pays où je me trouve, le continent où je me trouve, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, à La Rochelle, à New York, à Atlanta, mon Dieu, j'en oublie, au Canada, naturellement, en Grèce, en Inde... C'est du pareil au même. Il ne se cache pas. Il n'a même pas demandé que je lui demande la liste des questions que j'allais lui demander. Et pourtant, s'il y a un yoga authentique qui existe, eh bien, c'est chez François Raoul que vous le retrouverez. Bonjour François.
Et bonjour Daniel, bonjour tout le monde.
Écoutez, je sais que vous êtes entre deux avions. Souvent, on s'est croisés comme ça et puis on n'a pas beaucoup de temps. Donc, tout de suite, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
Et oui, j'ai démarré le yoga à une époque où le yoga n'était pas connu, où on prenait un peu pour des ovnis ou des martiens quand on parlait de yoga en Normandie dans les années 70. Et donc j'ai suivi une formation à Paris, il n'y avait qu'une formation d'enseignants à cette époque-là qui s'appelait l'école de la rue Aubryot. C'était un programme de 4 ans, très éclectique, avec tous les représentants des différentes lignées de yoga en Europe. Et... Pendant ces 4 années, j'ai eu aussi la chance de pouvoir rencontrer Bekkasi Iyengar par mon premier professeur, Jean-Claude Garnier. Et ensuite, je suis remonté là, j'ai remonté la chaîne à son professeur qui m'a introduit à Iyengar quand il est venu à Paris en 1975. Et d'une certaine manière, ça a déterminé ma vie pour jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, ça a été très très important comme rencontre et l'authenticité dont tu parlais tout à l'heure, bien sûr, elle est très importante. Comme le yoga a évolué, il est devenu mainstream, il est devenu très mode, il est devenu, on pourrait dire même pseudo-spirituel, souvent dans la forme, mais pas vraiment dans le contenu, quand on creuse un peu. Donc c'est important que les enseignants restent authentiques le plus possible, voilà, continuent à faire leur travail. Dans l'ombre parfois, mais le mieux possible, et sans se vendre, sans se prostituer dans les médias ou les grandes conférences qui sont un peu du cirque maintenant.
Et
Voilà.
voilà. Et voilà. Merci, François Raoult. Moi, je vais compléter le portrait parce que bon, on a vu ça brièvement là, à l'âge de 19 ans. Vous êtes parti en pèlerinage en Inde. Vous vous sentiez appelé et vous avez quand même dans votre cheminement, dans votre chemin du yoga, constamment, vous êtes constamment renouvelé. Vous avez été chercher une formation très sérieuse et approfondie avec le maître zen Chinnathan. L'Ayurveda, vous touchez l'Ayurveda avec le docteur Robert Svoboda, l'anatomie, voyons, l'anatomie avec Thomas Myers, et j'en passe. Donc, permettez-moi, François, avant qu'on débute et qu'on parle un peu peut-être, oui, de Iyengar, parce qu'il a une grande influence, qu'il a eu une grande influence auprès de votre enseignement, et il a eu une grande influence, et qu'il a encore une grande influence sur l'enseignement du yoga partout sur la planète. Par contre, auparavant, je vais donner l'adresse de votre site web, comme ça les internautes pourront découvrir en même temps que nous ce que vous faites. Donc, l'adresse à aller visiter, c'est openskyyoga.com. Vous devez naturellement utiliser un traducteur si vous n'êtes pas toujours familier avec la langue de Shakespeare. Et je vais vous l'épeler. Donc, c'est open, O-P comme Pierre, E-N-S-K-Y-Y. Donc, il y a deux Y, O-G-A.com. Est-ce exact, François?
Oui, ça, c'est une référence un peu à l'état de l'esprit dans la méditation tibétaine. Il y a cette notion d'open sky, de ciel ouvert, d'un esprit qui a la même qualité que le ciel ouvert. Donc c'est un peu pour ça qu'on a choisi ce nom au départ.
Et voilà. Et voilà. Et dites-moi, la rencontre justement avec ce maître en méditation, Chinnathan,
Nathan,
vous avez fait.
justement, il est assez âgé en ce moment, il va pas très bien. Il a été hospitalisé récemment à Bordeaux, je crois, près du village des Pruniers, là où il enseigne. Et moi, je l'ai rencontré à une époque où il n'était pas connu, ses livres n'ont pas été publiés, c'était pas devenu un peu un phénomène de masse. Il y a des gens qui l'ont un peu, comment on pourrait dire, ont fait un peu de packaging et de marketing avec la pleine conscience, mais au départ, c'est un être très très simple. Et donc, dans les années 80, moi j'ai eu la chance d'aller au village des Pruniers, et il y avait un tout petit groupe, il y avait peut-être une vingtaine de personnes, on habitait dans la même maison, lui il habitait au rez-de-chaussée. Quand je suis arrivé, je l'ai pris pour le jardinier. Il avait des sabots et un parka, il avait l'air un peu bizarre, comme dans un vieux film. Après, le soir, quand il a donné son dharmata, j'ai réalisé que bah, c'était lui le maître. Et
Et voilà.
voilà, donc, pour moi, c'était une sorte de polarité entre, disons, le yoga un peu plus au cas des composants physiques, avec les asanas et tout ça, et peut-être même surphysicalisé. Et alors que chez Thich Nhat Hanh, il y a aucune correction de posture, il n'y a aucun jugement. C'est pas forcément qu'on peut faire ce qu'on veut, mais je veux dire, c'est beaucoup plus ouvert comme environnement. Donc la méditation assise, la marche la méditation marché, tout ça sont des choses très, voilà, très profondes, très simples que tout le monde peut pratiquer. Et pour moi, c'était très libérateur d'une certaine manière, peut-être de cet environnement où il n'y avait pas de jugement, pas de correction, pas de, voilà, on pouvait être soi-même. Et donc, ça m'a donné une sorte de, ça a coloré d'une certaine manière la manière dont j'enseigne. Voilà, non, parce que dans la tradition Iyengar, c'est beaucoup plus directif et d'une certaine manière contrôlant. C'est-à-dire qu'on donne des instructions et d'une certaine manière, on corrige les gens. Il y a un côté un peu parental, même on pourrait dire, dans l'éducation. Et parfois, c'est questionnable, alors que Thich Nhat Hanh est d'une certaine manière, voilà, non, il n'y a aucune, comment on pourrait dire, il y a beaucoup plus de liberté, mais en même temps, voilà, c'est aussi une discipline.
Une discipline, d'accord. Et votre rencontre avec le docteur Robert Svoboda, l'influence qu'il a lorsque vous-même vous enseignez, lorsque vous corrigez des personnes, j'ai vu souvent des situations où vous allez prendre une personne parmi les groupes. Bon, on s'entend, les personnes qui ne vous connaissent pas, moi, je vais leur dire, vos classes sont pleines. On est presque sur le rebord du châssis parfois, et là, vous prenez une personne, et on est tous alentour, et là, vous allez faire des corrections, et vous y allez de façon consciente. Comment ça se passe? Quelle est l'influence de l'Ayurveda dans votre enseignement par votre rencontre avec Robert Svoboda?
Ouais, déjà, il y a plusieurs filtres quand on enseigne. Bon, on essaie le plus possible d'être transpersonnel, de ne pas regarder la personne, disons, dans son histoire personnelle, mais de regarder ce qui la traverse et qu'elle puisse recevoir des enseignements qui aussi ne m'appartiennent pas. Donc, l'Ayurveda, qui est devenu aussi à la mode, disons, dans les 10 dernières années, Dr Svoboda est un pionnier. Il était un des premiers à aller en Inde à étudier l'Ayurveda à l'école ayurvédique de Pune, à l'université, qui se trouve être la même ville que là où BKS Iyengar enseigne. Et je ne me rappelle pas exactement comment je l'ai rencontré, sans doute par... j'ai fait un cours par correspondance avec l'Institut ayurvédique du Nouveau-Mexique, là d'Albuquerque, où il y a Dr Ladd. Dr Ladd était très proche de Dr Svoboda, et donc... en fait, on est devenus amis, je l'ai invité dans mon centre, il a enseigné avec moi en France des retraites, donc on est devenus assez proches et je l'ai invité plusieurs fois dans mon centre aux États-Unis. Et donc j'ai étudié beaucoup plus sérieusement l'Ayurveda, disons, depuis une vingtaine d'années. Et je pense que c'est un bon filtre pour voir comment les gens fonctionnent dans un cours ou dans la vie en général. Donc c'est pas forcément une sorte de... Bon, c'est presque regarder la génétique de la personne. Donc, s'ils ont un certain comportement ou une certaine réactivité, ou ils font certaines choses à une certaine vitesse, ou disons, ils ont c'est en particulier à cause de leur dosha et de leur constitution ayurvédique. Donc, on peut non seulement pardonner plus facilement à des gens, par exemple, qui pourraient être réactifs parce qu'ils ont beaucoup de feu. Donc, d'une certaine manière, c'est pas de leur faute. Donc, on le voit venir et. Je pense qu'on peut aider les gens à aussi leur donner, comment on pourrait dire, une grille sur ce qui est possible de changer et ce qui est impossible de changer. C'est surtout ça que l'Ayurveda nous donne. Il y a des choses, des gens qui veulent changer des choses qui ne sont pas changeables et donc ils se fatiguent pour rien. Et donc en tant qu'enseignant, ça nous aide un peu à donner, comment on pourrait dire, un sort de support aux gens pendant leur pratique ou dans leur vie, à faire des choix plus intelligents, peut-être plus sains. Bien sûr, ça inclut la nourriture aussi, mais ça inclut quel type de posture, quel type de pranayama, les temps de repos, il y a des gens qui se reposent pas assez, le sommeil, tout ça sont des composants très importants dans l'Ayurveda, et donc je pense que ça nous aide, surtout dans les cours particuliers. Faut bien rappeler qu'il y a 40-50 ans, les cours de groupe n'existaient pas, peut-être dans certains grands ashrams à Rishikesh, mais l'enseignement était toujours individualisé comme l'art à la Renaissance. Dire Michel-Ange, il n'avait pas un cours de groupe ou Picasso, il n'avait pas un cours de groupe le mardi soir. Donc il y a des apprentis, il y a des gens qui Et je pense que l'Ayurveda aussi est très individualisé. Bien sûr, on peut enseigner des groupes, on peut leur apprendre les principes, on peut faire de l'éducation, mais dans l'ultime, c'est un entretien personnel avec un étudiant ou avec un être humain, et du coup, on peut individualiser la pratique, un peu comme un médecin, c'est pareil, on ne va pas voir un médecin en groupe. Donc, il y a un peu ça, et on a un peu oublié, comme le yoga est devenu un phénomène de masse, il y a dit. Comme vous le dites, il y a des gens, bon, il y a des cours à 30 personnes, 40 personnes dans les grandes conférences, des fois c'est une centaine, et donc cette individualisation, elle a disparu un peu, ce qui est dommage. Donc moi je conseille toujours aux gens qui démarrent le yoga de prendre un cours particulier s'ils ont trouvé un professeur ou une professeure qui ils ont une bonne chimie, une bonne comment des atomes crochus avec cette personne, qui prennent un cours particulier, ils apprendront beaucoup plus que 2 ans de cours de groupe.
Et voilà. Voilà,
donc l'Ayurveda aide à individualiser l'enseignement, je pense que c'est l'atout majeur, et c'est une grille, c'est fascinant d'étudier, il y a énormément de littérature, maintenant ça s'est bien développé, donc bien sûr il y a à boire et à manger, il y a des fondamentalistes, il y a des gens qui sont plus mode que d'autres, mais bon quand même c'est un le yoga et l'Ayurveda sont très très liés au départ dans l'histoire de l'Inde, donc toute personne qui fait du yoga à un moment donné se doit d'étudier l'Ayurveda et vice versa.
Et voilà. Et voilà. Et parce que le temps file, François Raoul, je vais inviter les gens à vous suivre. Vous avez une infolettre. Je vais inviter les gens à visiter votre site aussi, de s'inscrire. On peut avoir une liste complète. Des ateliers, des formations que vous offrez partout dans le monde. Mais vraiment, là, vous vous y prenez beaucoup à l'avance. Donc, surveillez openskyyoga.com. Et ce que j'aimerais faire, François, c'est faire le pont entre vos formations que vous offrez professorales et l'influence de Thomas Mayers dans l'enseignement de l'anatomie. Et comme nous sommes à court de temps et que nous voulons aussi que vous nous parliez un peu de d'Iyengar, j'aimerais bien qu'on fasse le lien aussi avec la façon dont vous faites vos teacher training, c'est-à-dire que vous vous êtes entouré. Certains enseignants vont faire la formation professorale à un petit groupe, un grand groupe d'étudiants qui veulent devenir professeurs tout seuls, alors que vous vous entourez justement d'experts et vous pourriez très bien enseigner ce que ces personnes qui offre la formation professorale font. Comment votre choix d'assistant, mais j'ose pas utiliser le mot assistant professeur, parce que eux-mêmes, ce sont des maîtres dans leur matière. Comment se construit une formation professorale avec vous? Et peut-être nous glisser un petit mot au sujet de l'influence de Thomas Mayers en anatomie.
Mais bien sûr, pour moi, la formation d'enseignant, c'est plus une sorte de voyage à la rencontre de soi-même. Donc, c'est un peu comme un sens de grand documentaire ou de grand film dont les gens deviennent acteurs principaux, plus que, disons, emmagasiner des connaissances théoriques, prendre des notes, etc. Donc, c'est plus un processus. Thomas Mayers, c'est pareil, je l'ai rencontré à un moment où il n'était pas connu, parce qu'il est maintenant il est devenu un peu une sorte de pont de l'anatomie, parce que tout ce qui est, disons, les fascias et un certain nombre de théories un peu plus, comment on pourrait dire, nouvelles sur l'anatomie sont devenues, sont quand même beaucoup développées grâce à lui, grâce à son livre Anatomy Train, les trains d'anatomie. Et donc, je pense qu'il a une vision globale du corps qui aussi nous aide dans notre pratique et qui n'est pas trop, comment on pourrait dire, ou médicalisée ou desséchée. Parce que la plupart des bouquins d'anatomie jusqu'à, disons, avant son existence étaient des livres théoriques de dissection et donc avec des listes de noms et les gens n'avaient pas une expérience de l'anatomie directe, donc ce qu'on appelle l'anatomie expérimentale, je pense qu'il a eu beaucoup d'influence pour développer une sorte de mouvement d'éducation somatique avec Bonnie Bainbridge-Cohen, qui a fait l'école du Body Mind Centering, avec Emily Conrad, qui a créé le mouvement du Continuum, et Thomas Myers a été lié à ces personnes-là qui sont très très influentes, qui ont beaucoup d'influence dans le siècle, on pourrait dire, sont des sortes de génies qui sont restés un peu dans l'ombre parce qu'ils n'ont pas écrit beaucoup de livres, parce que voilà, ils sont restés dans leur coin à faire des recherches. Et donc Thomas Mayer a été une sorte de pionnier aussi, et il se trouve qu'il avait une affinité avec l'enseignement d'Iyengar, en particulier, tout du moins dans les années du début. Donc dans son livre, si vous voyez les exemples de postures, souvent ce sont des postures dans la méthode Iyengar, donc on s'est retrouvé sur la même page. Donc dans mes formations, bien sûr, je pourrais enseigner l'anatomie, mais bon, moi je préfère avoir une sorte de présence un peu, pour dire, psychique, de donner une sorte d'environnement et d'inspiration à tout le monde à un niveau un peu global. Et quand c'est des choses plus spécialisées, je préfère tenir des gens qui ont étudié plus que moi la question. Donc Dr. Brooks, qui est un des grands spécialistes du sanskrit et des cultures prévédiques et védiques, il vient pas très longtemps, il vient une journée ou deux, mais c'est vraiment un impact énorme sur les gens, ces conférences. Bon, il y a une personne qui vient pour l'Ayurveda, il y a une personne qui vient pour l'anatomie, et donc moi ça me aussi, d'abord ça me décharge un peu d'un certain nombre de choses, et voilà, ils le font mieux que moi, ils le font, ça donne une sorte de polarité aussi, de personnalité. C'est bien dans une formation qui n'est pas qu'une personne, mais qu'il y ait plusieurs sons de cloche et que les gens voient une femme, un homme, des gens qui ont des idées différentes même. Sur la philosophie, ça lui donne une sorte de palette un peu plus large. Donc j'ai une formation en Europe et une formation aux États-Unis, et voilà, ça fonctionne très bien. Les gens, voilà, ça change énormément de choses dans la manière dont ils voient le yoga, et après, je leur souhaite bonne chance, ils font ce qu'ils veulent avec. Je les contrôle pas après, je leur donne une sorte d'impulsion, et comme ça, ils ont voilà, qu'ils soient curieux, qu'ils soient. Qui continue à lire, à écrire, à regarder, à observer tout ce qui se passe et utiliser même l'art ou beaucoup d'autres choses pour les intégrer dans leur enseignement.
Oui, voilà. Et puisque vous parlez d'art, j'aimerais inviter les auditeurs, les auditrices qui écoutent cette émission, qui est diffusée d'ailleurs dans 55 pays. Nous avons maintenant plus de 10 000 personnes qui écoutent en différé, surtout en différé, partout dans le monde. C'est tellement facile, c'est aussi accessible sur iTunes. Plus d'informations est disponible. Cherchez Yoga Web Radio. Je ne nommerai pas plus de noms que cela parce que c'est trop vaste le yoga et vous êtes un peu partout dans le monde. We could have done this interview in English, of course, and maybe we will do one one day. Mais vous avez touché l'aspect artistique, l'influence de la sonorité, de la musique. Vous avez été en retraite presque exclusive dans les Himalayas où vous avez enregistré de la musique sacrée. Parlez-nous-en un tout petit peu, s'il vous plaît, François Raoult.
Oui, dans les premières années, moi je couplais souvent un voyage en Inde pour étudier avec Vikas Iyengar à Pune, et je restais un mois ou deux mois de plus pour aller voilà, à la rencontre de l'Inde profonde, culturelle, traditionnelle. Donc comme la musique m'a toujours passionné, j'ai fait une maîtrise d'ethnomusicologie dans les années 80. Le champ était libre, le mot world music n'existait pas à l'époque. Donc étudier la musique tibétaine ou des musiques traditionnelles d'autres cultures, ou ce qu'on pourrait dire d'autres musiques classiques, n'était pas encore très très bien vu, même on pourrait dire par les systèmes universitaires. Donc j'ai été une sorte de pionnier. Je suis parti au Tibet 2-3 mois et voilà, avec un gros magnétophone professionnel et des tonnes de piles et de batteries, et j'ai enregistré des rituels dans des monastères tibétains assez reculés, et c'est devenu ma thèse. Donc ça, c'est un truc un peu à part, mais l'influence du son et de la musique est restée dans mon enseignement. En Inde, c'est très 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 important. Même on pourrait dire que les vrais yogis en Inde sont les chanteurs, sont les chanteurs de raga, sont les musiciens classiques. Ils se voient, eux, comme Nada Yogi, ils se voient comme des yogis, et ils regardent un peu même en bas les gens qui font des asanas, comme un peu en bas de l'échelle. Disons que les vrais yogis sont les musiciens classiques en Inde. On oublie souvent de le dire. Donc les Pandit Jashraj et tous ces gens-là sont des êtres phénoménaux. Et leur musique, c'est leur yoga. Donc je pense que c'est important que les gens écoutent de la musique avec une profondeur voilà, de conscience que le yoga leur donne, qui se donne complètement à ce qu'ils écoutent, au lieu de, disons, surfer ou d'avoir de la musique en même temps qu'ils travaillent. Donc, je pense qu'il y a un élément là qui est important. Et voilà, c'est un peu un paradoxe, puisque dans la lignée Iyengar, bon, on n'utilise pas de musique dans les cours. Disons, pourquoi? Parce qu'on enseigne une technique, donc on a besoin de s'arrêter, de regarder ce qui se passe, de confronter les gens à ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont reçu le message ou pas. Donc, on ne pourrait pas tellement avoir de la musique, ou ce serait une musique de fond, ce serait un peu absurde. Donc, il y a une sorte de. Moi, quand j'utilise la musique, c'est presque comme s'il y avait une deuxième partie dans mon cours où les gens sont en assise, en méditation ou allongés et ils écoutent des musiques. Ça peut être du Mozart, ça peut être un raga, ça peut être des sons primitifs. Aussi, ils peuvent bien sûr chanter des mantras. Donc, de ce côté-là, ça ne serait pas une tradition Iyengar.
Ouais.
Voilà, je me suis un peu éloigné de l'enseignement à Iyengar de ce côté-là, mais en même temps, j'en ai parlé à Iyengar lui-même, et il voyait pas trop que c'était un problème. Donc, voilà, c'est pas.
Ouais, effectivement. Et puis, naturellement, le temps file. François Raoult, il y a une infolettre, plusieurs fils sur les réseaux sociaux qui circulent le jour où Iyengar a rendu son dernier souffle physique. Et on n'a pas parlé de l'influence de Judith Lasater. Votre rencontre avec Noël Pérez. Bon, écoutez, il y en a tellement. Moi, ce que je vous invite les gens, c'est d'aller voir le site. C'est vraiment riche. Et votre page Facebook, moi qui n'aime pas Facebook, je me suis perdu dans les magnifiques photos que vous prenez lors de vos voyages, lors de vos excursions. Donc, Open Sky Yoga, cherchez sur Facebook, vous allez trouver un album riche.
Pour ajouter que sur les gens qui rentrent sur mon site, sur la première page, ils peuvent s'inscrire pour la newsletter. Et c'est là, souvent, c'est une sorte de blog où j'écris des articles, où je partage des livres ou des musiques à écouter, etc. Donc, il y a une sorte on pourrait dire, de subculture, de culture un peu d'Open Sky. Et c'est ça qui est un peu reflété sur Facebook aussi. Je sais bien que Facebook est très controversé, mais si on l'utilise intelligemment, on peut partager des choses essentielles aussi.
Et voilà,
Donc
ouais.
voilà, et pour repartir sur l'influence d'Iyengar, Judith Lasater, qui a cofondé Yoga Journal aux États-Unis et qui est une amie très proche maintenant, donc on s'est rencontrés en Inde plusieurs fois dans les années 80, et elle a aussi suivi l'enseignement d'Iyengar tout au début, dans les débuts des années 70 et les milieux des années 70, c'était pas très connu à l'époque, elle a développé tout le yoga restauratif dans le monde entier. Je veux dire, c'est une voie très importante dans le monde du yoga. D'abord, c'est une voie de femme. C'est important d'en avoir des voix, disons, puissantes, qui représentent les femmes. Et son enseignement est très brillant. Donc, mais elle doit énormément à Iyengar aussi. Souvent, les gens oublient que quand ils s'allongent sur un bolster ou ils utilisent un bloc ou voilà, où ils sont en Shavasana, c'est tout ça sont des choses que Monsieur Iyengar a inventées ou explorées par lui-même. Donc, dans le siècle, il a quand même une influence phénoménale. L'an dernier, quand il est mort le 20 août, moi j'étais au Sri Lanka et j'ai eu une sorte de prémonition. Je me suis réveillé au milieu de la nuit et voilà, j'ai une sorte de flash. J'ai pensé à lui, etc. Et ma partenaire, le matin, quand on s'est réveillé à 5-6 heures, elle a regardé les infos sur Internet et voilà, on a découvert qu'il était parti. Donc j'ai une sorte de synchronicité. Bah, j'avais un lien quand même très, très puissant avec lui, bien que je ne sois pas allé les dernières années à Pune, je restais très, très proche dans son énergie.
Ouais. Ouais. Vous avez étudié auprès d'Iyengar pendant plusieurs années. J'ose même pas donner de chiffres parce que vous avez été souvent.
Je l'ai rencontré en 1975 à Paris. À l'époque, c'était facile, il était très abordable. Donc, je lui ai demandé, après, on a mangé dans une crêperie à Paris. Sur le trottoir, je lui ai dit, ah, bah, j'aimerais bien continuer avec vous. Moi, j'avais 20 ans, je sais plus, j'étais jeune. Donc, je lui ai dit, ah, c'est super, comment est-ce que je peux continuer? Bah, il m'a dit, bah, venez. Donc, 2 mois plus tard, hop, je pars. J'étais à Pune, il y avait 7 personnes dans le cours pendant un mois. Voilà, c'était facile. Donc, depuis après, j'y suis retourné quasiment tous les ans, ou tous les 2, 3 ans. Il y avait des programmes intéressants, ce qu'ils appelaient des intensives, des intensives sur invitation, un peu un groupe mondial de 30-40 personnes. Donc, ces groupes-là ont aussi, voilà, tous des gens comme Patricia Walden, comme Rodney Yee, dire, des gens, Jude Lasseter, tout ça, sont des gens qui étaient dans ces groupes, vous voyez. Donc, ça a été une sorte de terreau fait très très fertile. Alors, des gens qui ont bien sûr développé leur propre école après, tout ça, mais je veux dire, ça a une influence énorme sur le monde du yoga contemporain.
Oui.
Et voilà, je suis retourné le plus souvent possible en fonction de ma disponibilité, donc jusque dans les années 2000, par là, où il a enseigné une session de 3 semaines de pranayama sur les bords du Gange dans une tente. C'était absolument fantastique. Donc
Ça doit être effectivement, oui.
il est parti en paix, je veux dire, sa mission était complète, il est parti complètement en paix. Donc d'une certaine manière, même si ça a été douloureux, il est parti comme il a vécu, je veux dire, il n'a pas eu de regrets. Jusqu'au dernier moment, il a été très conscient. Et donc voilà, pour nous, c'est une sorte de passage, quoi.
On dit qu'il avait un caractère très difficile. Vous l'avez déjà subi. Ben, subi, c'est un grand mot, là. Vous
Oui et
l'avez
non, je
déjà
veux dire.
vécu cette colère de sa part lorsqu'il s'impatiente, lorsqu'il
Personnellement,
s'impatientait.
non. Je veux dire, c'est un peu, comment on pourrait dire, mythique ou c'est un peu un cliché de dire ça. C'est vrai que là, souvent les maîtres indiens, surtout quand on remonte dans le temps, ou si on voit les maîtres tibétains comme Milarepa, ne sont pas des gens, je pense, des gens faciles. Donc, ils ont un caractère, bien sûr. Je crois qu'ils sont très exigeants. Donc, des fois, si les gens les provoquent, donc ils ont une réponse proportionnelle à la provocation. Il y a un peu ça, le maître est un peu un miroir. Mais bon, parfois, c'est pas justifié. Parfois, ils reproduisent des patterns de leur gourou qui n'étaient pas sympas non plus. Je veux dire, il y a plusieurs niveaux d'interprétation, mais chaque personne a une histoire différente. Personnellement, moi, j'ai eu des clins d'œil, j'ai eu du support, j'ai eu des remarques exigeantes, mais dire, j'ai jamais été confronté à des moments difficiles. Je crois que c'est très subjectif aussi. Chaque personne a une histoire différente, un karma différent, donc il reçoit une certaine partie du maître.
Ouais.
Voilà, donc je pense que c'est un peu comme les metteurs en scène au cinéma, je veux dire, ou au théâtre. Ils peuvent être très très exigeants et très difficiles sur scène, mais après ils sont très sympas quand on va dîner avec eux. Et votre meilleur ami peut être très très dur sur scène si c'est le metteur en scène avec vous.
Ouais.
Donc il y a une sorte d'exigence parfois qui fait sortir les gens, qui fait sortir le meilleur d'eux-mêmes ou qui leur fait transcender leur ego. Voilà, mais parfois ils peuvent faire des erreurs aussi, hein. L'erreur est humaine.
Ben oui,
Au lieu de disons, de voilà, il y a des gens qui sont plus peut-être plus sympathiques ou plus doux d'apparence, mais c'est pas forcément avec eux qu'on apprend le plus. C'est pareil pour les thérapeutes. Psychothérapeutes, c'est pas forcément des gens sympas ou des amis, hein. Donc, juste parce que c'est du yoga, ça ne veut pas dire que parfois ça peut pas être confrontant. D'une certaine
et
manière, c'est
voilà.
une forme d'authenticité, d'avoir une sorte de palette émotionnelle, de pas toujours sourire, quel que soit ce qui se passe. Voilà, donc moi je le vois un peu comme un plus. Bien, je sais que c'est controversé. Voilà, c'est pas forcément des choses qu'on est obligé de reproduire, mais lui-même le dit, vous n'avez pas besoin de faire comme moi, soyez pas des marionnettes ou des cassettes. Donc il y a des gens qui ont copié un peu ces moments de colère, comme si ça faisait partie de l'enseignement, et ça, c'est pas bien de lui. Non, c'est pas bien de lui.
François Raoul, le temps file. J'aimerais terminer en vous demandant justement de nous raconter une anecdote, une histoire. Ça peut être aussi un texte des Shastras, tiré, poème, peu importe. Mais pendant que vous vous préparez pour cela, je m'en voudrais de ne pas inviter les personnes qui nous écoutent à considérer d'aller en voyage avec vous, soit en Inde, soit en Grèce. Un voyage initiatique. Tout se trouve sur votre site et aussi sur Yoga Partout. Donc, je vais en parler puisque sur Yoga Partout, il y a une page qui vous est accordée. Donc, vous pouvez utiliser l'engin de recherche et simplement taper et le reste va suivre. Ou bien, après la barre oblique, François Raoult, tout en un mot. Donc, pour les hashtags et tout ça, là, ça fonctionne avec les médias sociaux. Il y a la page Iyengar aussi, naturellement. Il y a un lien entre votre page, celle de François Raoult, et celle de Iyengar. Cette entrevue est entreposée en permanence sur votre page. Il faut s'inscrire. Donc, il faut s'inscrire. Il faut être, comme on dit, connecté. C'est le yoga de la conscience sur Internet, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, voyage en Grèce, mais vraiment, le voyage en Inde, il est vraiment, vraiment unique, particulier. Les gens qui veulent aller dans le palace de l'Ayurveda peuvent y passer une semaine, 2 semaines, tout dépend du choix, ou simplement suivre une autre direction. Les détails sont sur openskyyoga.com. Il y a plein d'informations. Vous êtes facile à rejoindre par courrier électronique et lorsqu'il y a un besoin aussi, vous êtes très, très accessible. Il y a une influence de Krishnamacharya dans ce que vous avez raconté au sujet des épisodes de colère ou de mettre je manque de mots là, mais peut-être faire un lien avec les origines du yoga ou tout simplement nous laisser sur une parole de la fin, une pensée, une anecdote, puisque cette émission, je la dédie, donc nous la dédions à Iyengar, ce grand maître spirituel qui a tracé son chemin et qui a influencé des millions de personnes dans le monde du yoga. Donc, je vous laisse la dernière parole, François Raoult. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et je vous souhaite tout le bonheur.
Merci beaucoup de m'avoir invité, surtout à un moment aussi important que cet anniversaire de sa mort. Et voilà, Iyengar a été, moi je pense, c'est plutôt un révolutionnaire, c'est pas un traditionnaliste. Il a beaucoup inventé, il a beaucoup exploré, il a beaucoup trouvé, il a beaucoup cherché. Il a même sacrifié un certain nombre de ses principes religieux, par exemple, en touchant les élèves, comme en général en Inde, les brahmanes ne touchent pas, surtout les gens qui sont pas de leur caste. Donc voilà, il a fait un certain nombre d'exceptions pour servir l'enseignement. Et moi, je le vois plutôt comme une sorte de révolution que comme une évolution de la tradition. Le débat maintenant en Inde, de savoir si le yoga est autochtone, il est indien ou il est venu, il a été importé par des migrations aryennes très vite au temps des Védas. Et voilà, moi, c'est un débat très, très important, c'est un débat politique, c'est un débat philosophique sur les racines du yoga. Peut-être je voudrais terminer en vous invitant à lire le numéro 52 dans le deuxième chapitre des Yoga Sutras de Patanjali, qui dit que la pratique, surtout du pranayama, mais la pratique en général, permet de dissoudre le brouillard, ouvre la lumière de l'esprit, ouvre la conscience. Je pense que c'est ça le plus important, de mettre bas les masques, d'être soi-même, d'être authentique, et que voilà, que le yoga nous aide à trouver notre voie, notre vraie voie, au lieu de jouer des rôles, voilà, dans ce qui est court, mais qui est aussi très très large. Donc, je souhaite à tout le monde de pratiquer tout par eux-mêmes, d'avoir une pratique personnelle comme un artiste, comme un chercheur, et voilà, et le yoga va vous ouvrir énormément de portes et peut-être vous faire voir le open sky, le ciel ouvert. Merci beaucoup.